Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Tati Mampoukou.
Okapi.
Nous voici dans la seconde partie du magazine Okapi Service, chers auditeurs et auditrices, avec comme thème quelles sont les précautions de sûreté et de sécurité qu'il faut tenir compte dans en créant un zoo ou dans un jardin zoologique. Nous en parlons avec Dr Jean-Claude Binemo, il est médecin vétérinaire. Docteur, bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Bonjour, merci pour l'invitation, ravi de passer sur votre radio.
Chers auditeurs et auditrices, si ce thème vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct. Témoigner au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct. Par SMS, envoyez-nous vos commentaires, témoignages et suggestions au numéro 099-706-9941. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous lisons par exemple les commentaires d'Achille Kassongo qui nous a écrit depuis la ville de Lubumbashi. D'après cet internaute, lorsqu'on a de telles espèces animales, on doit être en mesure de bien les nourrir. Tout le monde a vu la santé de ces deux lions qui, je suppose, qui n'étaient pas bien nourris. À force de mourir de faim, ils ont fini par s'égarer dans la nature à la recherche de leur survie. Nous entendons également vos commentaires dans les courriels dénommés service@radiocapi.net. Tati Mampoukou vous présente et coordonne ces numéros sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Gloria Lutula est à la réalisation et Pierre Diassinois s'occupe de la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une bonne condition d'écoute de cette seconde partie du magazine Okapi Service. Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Quelles sont les précautions de sûreté et de sécurité qu'il faut tenir compte en créant un jardin zoologique? Nous en parlons dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service. Et si ce thème vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct. Dans le Haut-Katanga, deux lions se sont échappés de la ferme Bijing située dans la périphérie de la ville de Lubumbashi le 24 mai dernier. Et les autorités locales avaient immédiatement lancé une alerte maximale et déployé des équipes spécialisées pour localiser et capturer ces fauves. La population a été appelée à la vigilance, en particulier les habitants des zones périphériques et les usagers de la route Kasenga. Les premières enquêtes suggèrent que des négligences dans l'entretien des enclos pourraient être à l'origine de cette évasion. Alors, quelles sont les précautions de sûreté et de sécurité qu'il faut tenir compte lorsqu'on crée un jardin zoologique? Quels sont les réflexes à adopter en cas de divagation ou d'évasion d'une bête sauvage dans une agglomération? On va aborder ces deux questions principales dans ces rendez-vous avec docteur Jean-Claude Binemo, médecin vétérinaire. Une fois de plus, bienvenue dans Okapi Service.
Merci.
Dites-nous, première question, un jardin zoologique, c'est quoi, en quoi consiste ou quelle est l'utilité d'un jardin zoologique?
Ok, merci pour la question. Je voulais d'abord, avant de commencer, essayer de corriger. C'était pas des lions, c'était quatre lions qui s'étaient évadés, qu'on avait maîtrisés.
Et non deux.
Non deux, c'est quatre. C'est quatre. Oui, en fait, le but des jardins zoologiques, c'est, le but est multiple. Premièrement, c'est sur le plan éducatif. C'est-à-dire que quand vous créez un jardin zoologique, vous amenez les espèces que les gens n'ont pas l'habitude de voir ou ne sont pas habitués d'être à côté de ces animaux-là. et ils peuvent venir voir soit les élèves ou les étudiants, ils peuvent venir voir ou étudier les comportements de ces animaux et voir comment est-ce que ils sont naturellement et tout ce qu'il y a trait à ces animaux. Et l'autre but, c'est un but de conservation, parce que vous pouvez vous retrouver qu'il y a un animal, par exemple, qui est blessé, un animal qui ne sait pas s'intégrer dans la nature, devient handicapé dans la nature. Pour conserver cet animal, on peut le prendre et le mettre dans un jardin zoologique.
Et c'est aussi pour des raisons de recherche
Oui, pour des raisons de recherches, oui, parce que par exemple sur le plan où vous êtes dans l'incapacité d'aller faire des recherches dans les milieux naturels où l'animal se retrouve, quand ils sont en captivité, on peut aussi s'intéresser à faire des recherches et à comprendre leur comportement, et surtout aussi comme il y a toujours l'impact de la captivité qui fait qu'il y aura changement de comportement quand il est dans son milieu naturel. Et quand il est en
cage ou en semi-liberté,
ça veut dire que les comportements changent. Il faut toujours essayer de comprendre ça. C'est pour cela que vous allez voir, par exemple, dans des zoos, on a des programmes d'enrichissement des enclos. Je peux vous donner, par exemple, chez les lions, au lieu de venir lui donner toujours la viande dans sa cage, on peut commencer à cacher la viande pour permettre que l'animal cherche.
Qu'il puisse pas perdre les réflexes et de la chasse.
Qu'il s'occupe un peu de bouger, parce que les vrais problèmes qu'on a en captivité, c'est l'obésité. C'est-à-dire que les animaux qui étaient habitués à aller courir, mais ils sont nourris, et là, vous avez plus des animaux en captivité qui sont obèses.
Et dites-nous alors, en créant un jardin zoologique, quelles sont les mesures de sûreté qu'il faut mettre en place?
En fait, au Congo, il y a l'Institut congolais de la conservation qu'on appelle ICCN. Ça dit que c'est l'ICCN qui gère tous les zoos, les parcs, enfin que vous importez, ou si vous avez un projet en se disant que moi je vais faire un parc d'attraction là où je vais amener les girafes, je vais amener les lions, les tigres et tout. Et l'ICCN, vous devez faire un contrat et l'ICCN va vous donner maintenant les conditions. Par exemple, en vous disant que quand vous voulez amener des animaux comme des animaux des carnivores, ils sont dangereux, il faudra que les cages soient comme ça, il faudra l'électricité, il faudra quoi. Et par exemple, pour nous, au zoo, ça veut dire que chaque année, au zoo de Lubumbashi, il y a l'OCC qui passe pour vérifier
la conformité
des cages,
pour certifier, des enclos.
Pour certifier que non, les cages qui sont au zoo de Lubumbashi, ce sont des cages qui sont bien solides pour ne pas exposer les publics qui viennent visiter les zoos.
Oui, en même temps aussi, il y a de plus en plus, docteur Binemo, des particuliers qui érigent des zoos, des parcs. Ils doivent également se soumettre à ces conditions-là.
Oui, c'est une obligation. Tu peux pas venir comme ça, tu te réveilles, tu dis non, je commence un parc. Non, il faudra toujours un contrat, parce que c'est l'ICCN qui est l'organe qui a des experts et qui dirige les secteurs des animaux, la conservation de la nature, là où vous avez la faune et la flore. C'est l'ICCN qui protège ça. Ça veut dire que si moi aujourd'hui, Jean-Claude Binemo, je me dis que non, je voulais faire aussi un parc là où les gens doivent venir visiter, il y a l'ICCN qui doit me donner les conditions. Et même pour importer ces animaux-là, il faut avoir un permis CITES, et ce permis-là est délivré par l'ICCN.
Et parlez-nous un peu de l'incident qui s'est passé à Lubumbashi, parce que c'est vous qui avez maîtrisé les bêtes qui étaient en cavale à Lubumbashi. Les premières enquêtes, c'était lié à quoi, le fait d'échapper aux zoos?
Non, ils sont pas des zoos, ils sont de la ferme Benjin. La ferme Benjin, elle est sur l'axe route Kasenga, à 51 kilomètres de la ville de Lubumbashi. En fait, la ferme Benjin
est la ferme qui élève des lions.
Oui. La ferme, pas des lions, c'est une ferme, comme on dit, c'était
agro-pastorale.
Il y avait beaucoup des animaux, mais il s'est fait que le propriétaire de la ferme n'est pas au pays. Là, je sais pas, ce sont des histoires politiques. Et quand le propriétaire n'est pas là, vous comprenez qu'il y a eu des difficultés sur le plan financier pour entretenir sa ferme.
Bêtes. Et puis ces bêtes, elles sont sorties
Il y a eu quatre lions qui étaient sortis, mais il faut pas vous méfier terrifiés de toutes les images ou vidéos qu'on montrait les lions. Ils étaient sur la route, ils passaient dans des quartiers. Non, les lions n'étaient pas sortis de la concession de la ferme. Ils étaient tout près de la
dans
ferme.
Dans la périphérie de la ferme.
Ouais. Ils n'ont jamais attaqué une personne, Dieu merci. Il y avait les militaires qui devaient les abattre. Heureusement pour les lions, parce qu'on n'avait pas su les abattre. Et nous, c'est samedi, parce que moi, je ne travaille pas pour l'État. Je travaille pour Ozo. Je travaille pour Azlou, qui est une ONG qui gère les eaux de Lubumbashi. On a un contrat avec l'ICSM pour la gestion des eaux. Et c'est là où on m'avait contacté. J'étais chez moi le samedi, parce que moi aussi j'ai suivi les images,
comme tout le monde, comme tout le monde.
Ouais, il y a l'ambassadeur Dani Banza qui m'avait appelé le samedi la nuit pour me dire que docteur, il y a un problème, il y a les lions qui sont sortis
de leur limite de la ferme.
Oui, il y a panique parce que tout le monde paniquait à Lubumbashi. On ne savait pas où est-ce qu'ils étaient, et moi je lui ai posé des conditions. J'ai dit pour que je puisse aller travailler, nous devons avoir des anesthésies, des produits, parce qu'il faut les anesthésier
pour les endormir
et les remettre dans les cages. Et il avait immédiatement affrété l'avion, parce que les quantités que j'avais au zoo, parce que au zoo moi je n'ai qu'un lion et des tigres, c'était pas suffisante. On devait faire venir les quantités des anesthésiques, parce que les lions, leurs anesthésies sont différentes de ce qu'on utilise chez les chiens. Vous comprenez, on devait avoir les quantités et les concentrations.
Parce que le lion il est costaud.
Les concentrations, ça veut dire qu'il avait fait venir en urgence les produits. Il m'a envoyé le dimanche matin, il m'a envoyé sa Jeep et son chauffeur. Nous sommes partis, on est arrivés à la ferme, et quand on m'avait appelé, moi aussi j'avais appelé les directeurs provinciaux de l'ICSN, comme celui qui représentait l'État, on est partis, il y avait les agents, 4 agents de l'ICSN, on a trouvé les phares d'essai qui étaient à la ferme, et les agents de la ferme qui étaient sur place, et moi j'étais venu avec une équipe de 3 personnes, et ensemble, j'ai coordonné la mission, on a commencé à les traquer. Comment on a commencé à les traquer? On a commencé à les chercher. Après, on a pris une chèvre, on a découpé, on a bâti une chèvre, on a découpé, on a commencé à jeter comme les appâts. Et c'est là où quand ils ont vu la viande, qu'elle venait, et on a commencé à tirer pour eux, pour les capturer.
Ok. Et ils étaient dans quel état, ces bêtes?
Ouais, comme vous les voyez sur les images, ils sont maigres. Ils sont maigres.
Donc il y a eu un problème des nutritions.
Oui, c'est comme je vous dis, le propriétaire n'est pas là, vous comprenez, ça veut dire qu'il y a un problème politique, il ne sait pas bien gérer sa ferme, et comme conséquence, les animaux ne mangent pas bien.
Et lorsqu'on se retrouve dans de telles situations, quels réflexes la communauté doit développer?
Et là, d'abord, c'est malheureusement, à Lubumbashi, les gens avaient déjà beaucoup paniqué. Pourquoi? Il y avait les effets des réseaux sociaux.
L'amplification de l'information.
Mais quand je suis arrivé sur les lieux, parce que la ferme...
Et à l'écart de la ville.
Oui, oui, à 51, 52 kilomètres de la ville. Il y a des villages tout autour de la ferme, mais j'ai trouvé les villageois, ils étaient calmes. Parce qu'ils n'avaient pas l'information qu'il y avait les lions qui étaient sortis, vous comprenez? Ça veut dire que dans ces cas comme ça, il faudra savoir bien donner l'information. Une information très précise.
Oui.
Je peux vous donner par exemple, un jour, on est au zoo de Lubumbashi, il y avait des enfants qui étaient là, il y a un chimpanzé qui s'échappe de sa cage. Vous voyez? La première chose, c'est quoi? On prend tous ces gens qui sont là, on les met dans des salles, on a dans des salles de conférences, c'est quoi? On enferme tout le monde, sans bousculer. Il y a une équipe.
Parce que quand vous créez la panique, l'animal s'agite, il peut aussi s'attaquer.
Il y a une équipe qui piste l'animal, et nous savons là où il se dirige, et là, on sécurise les publics, et après on commence. C'est ça. Ça veut dire que normalement, s'il y a un animal qui s'échappe, il faudra d'abord une équipe qui commence à les pister, savoir où il est tenté de partir. Et quand vous donnez l'information, il faut donner très 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 bien l'information. Pourquoi? Parce que malheureusement, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout peut partir comme à Lubumbashi. Et tu avais des images, on disait même que les lions étaient dans la ville et tout, c'était...
Faites attention de circuler la nuit. On a vu des photos du lion en train de se promener
Mais si vous suivez, le maire l'a dit, c'est tout autour des périphéries. C'est pour ça que ça dit que l'information doit être très très précise, et ça va donner la vraie localisation des lions, et avoir une équipe qui est entrée, soit des drones, soit des gens qui suivent de loin, qui donnent à chaque 10 minutes les informations précises pour dire que à cette heure, il se trouve à telle position, à cette heure, il se trouve à telle position.
Docteur, dans ces rendez-vous, on donne également la parole à la population. Donc, on va partir au standard. Okay. Puis, nous allons retourner ici au studio. Quelles sont les précautions de sûreté et de sécurité qu'il faut tenir compte hein, lorsqu'on crée un jardin zoologique? Nous en parlons dans cette seconde partie du magazine Okapi Service. Si ce sujet vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct.
Okapi.
Le premier auditeur, il intervient depuis la ville de Kisangani, il s'appelle Thomas. Monsieur Thomas, bonjour.
Oui, bonjour monsieur Tati, et bonjour à l'invité, ce qui est une fois de plus à tous les auditeurs de la radio Okapi. En tout cas, monsieur Tati, c'est vraiment ce qui s'est passé là, ça nous a tous, on était un peu stigmatisés, on était un peu mal à l'aise là. Heureusement que les lots d'alambre étaient là, les vités. En tout cas, toutes nos félicitations à les fous qu'il a eu quand même en fait, parce que ni t'étais, peut-être lui, on ne sait pas ce qui devait arriver, monsieur Tati. En tout cas, nous félicitons l'invité parce que on devait assister au pire. En tout cas, notre Dieu était là, on ne sait pas, notre Dieu était là. En tout cas, l'invité nous a sauvés quand même. En tout cas, merci beaucoup, monsieur l'invité, pour tout ce que vous avez eu à faire parce que, on ne sait pas ce qui devait arriver aujourd'hui, là. Mais, monsieur Tati,
monsieur Thomas, donc, docteur Jean-Claude est un héros, hein.
Un héros, monsieur Takir, c'est sûr de parler Jacques Ovet dans ce pays. Pas seulement l'affaire de Dieu. Il y a quand même les gens, quand même, qui ont limané, qui ont sauvé quand même. Voilà les gens à qui on doit même voter, monsieur Takir. C'est pas pour faire la publicité, mais ce que le vité a eu à faire, monsieur Takir. Parce qu'ils sont très rares de parler aux gens là, sur la terre ici, surtout en RDC ici. Merci beaucoup, monsieur Takir. Mais, monsieur Takir également, lorsqu'on veut créer, en tout cas, les jardins zoologiques, monsieur Tati, il est important, en tout cas, qu'on puisse prendre surtout plusieurs précautions de sûreté, mais aussi de sécurité pour assurer, en tout cas, le bien-être des animaux, mais également des visiteurs. C'est-à-dire, avant la création, il faut déjà qu'il y ait le préalable, là. C'est-à-dire, on doit mettre des précautions pour la sécurité, d'une part des animaux, des bien-être des animaux, et d'autre part également des visiteurs qui pourront Même du personnel, j'ai parlé ici de notre héros d'Arôme. C'est quand même un personnel. Pourquoi? C'est parce qu'il a été formé. Je veux toucher cet aspect des choses. Est-ce qu'on a des experts ou des personnels qui sont formés à la matière là? C'est ça aussi le grand problème. Parce que si on avait des experts qui sont bien formés, on devait pallier à cette situation là. Vous voyez, c'est mal évité. Je ne sais pas s'ils sont combien sur l'ensemble du pays. En tout cas, c'est la formation est très importante. D'abord, d'entrée des yeux, qu'il faut qu'il y ait des précautions quant à la sécurité du bien-être des animaux, d'autre part, mais également des visiteurs, mais sans oublier même du personnel. Mais il y a aussi, cela passe par quoi? L'invité a parlé ici, il faut qu'il y ait l'aménagement des enclos, c'est-à-dire il faut qu'il y ait les clôtures. C'est très important cet aspect des choses, parce que l'enclos doit être conçu de manière à assurer la sécurité, parce que chez moi, même à Nitouri, là, il y avait certains moments, là, où c'était un éléphant, qu'on appelait Yamado. L'éléphant, là, aussi, il sillonnait en électro libre, là. Ni c'était vraiment au plus des chasseurs, là, ça avait déjà créé également des choses. C'est-à-dire, il faut que les animaux, là, puissent être dans des espaces, dans la cour qui est vraiment bien sécurisé. Là, ça solve également, on ne peut pas assister à tous ceux qui peuvent. Parce que, lorsqu'on a les enclos, ça permet à ce qu'on puisse éviter leur évasion, toute évasion, ça permet en tout cas de lutter cet aspect des choses. Lorsqu'ils sont dans les enclos, là, ça permet d'abord pour leur sécurité, mais également ça nous protège, nous, les personnels ou peut-être les visiteurs qui peuvent circuler par-ci, par-là. C'est très important l'aménagement des enclos, ce que l'invité a parlé. Deuxièmement, tu as dit, c'est également la sécurité des visiteurs, c'est-à-dire les installations là, doivent être conçues de manière à sécuriser également les visiteurs. C'est très important. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des barrages. Il faut pas que peut-être quelqu'un qui puisse venir là pour assister. Il faut qu'il y ait des barrières là. Vous pouvez pas être en contact direct avec les animaux. Je crois que c'est ce qui se fait même dans des parcs. Ou même si vous pouvez visiter, mais il y a des barrières là qui doivent être érigées pour empêcher tout.
C'est ce qu'on appelle les barrières, des barrières biologiques. Pourquoi? Parce qu'il ne faudra pas que l'homme contamine l'animal et il ne faudra pas que l'animal contamine l'homme. Ça veut dire que quand il y a les visiteurs, il faut qu'il y ait cette sécurité. C'est pour ça que vous allez voir même dans des zoos, comme chez nous à Lubumbashi, on est interdit même une personne à donner à manger aux animaux et à toucher les animaux. Tu as tout à fait raison.
Est-ce que vous avez des questions particulières, Monsieur Thomas? Au-delà des contributions,
oui.
Allez-y.
J'aurais des questions. Je parlais sur le troisième point, je parlais sur la surveillance et la formation du personnel. C'est ça ce que je vais beaucoup parler sur ça. La surveillance et la formation du personnel. C'est très important parce qu'il est crucial également de former le personnel à la manipulation, mais également à la gestion des animaux. C'est très important. Parce que si quelqu'un n'était pas formé, je pense que je vais toucher les lieux comme l'invité avait poussé ce jour-là, s'il n'y avait pas la formation, c'est très important. On doit former le personnel
à la manipulation des éléments. Tout à fait raison avec vous.
Oui, maintenant, allez aux questions, s'il vous plaît. Il y a d'autres auditeurs qui attendent, cher Thomas.
Merci beaucoup. Directement, je m'avais à poser mes questions. Quels sont en tout cas les protocoles d'urgence mise en place en cas d'accident ou en cas d'évasion d'un animal dans des jardins zoologiques en herbe? Et comment former en tout cas le personnel pour y faire face de manière efficace? Ça, c'est l'invité est du domaine. En tout cas, là, j'attends beaucoup de la réponse de l'invité. Quels sont les protocoles d'urgence que l'État ou le gouvernement a mis en place pour, en cas d'accident, mais également en cas d'évasion des animaux? Et comment former en tout cas le personnel pour y faire face à ces problèmes-là de manière efficace? Ça, c'est la première question. Deuxième question, M. Tati, c'est par rapport à comment sensibiliser en tout cas aussi les visiteurs quant à ça. Je ne sais pas comment on peut sensibiliser les visiteurs aux règles de sécurité à respecter et des précautions à prendre lorsqu'on veut rendre en tout cas, par exemple, visite dans des jardins zoologiques. Je ne sais pas quel soit en tout cas ce que l'invité peut nous donner à ce qui concerne par exemple nous les visiteurs, quelles sont les règles de sécurité qu'on peut nous expliquer afin de lutter contre cet aspect des choses. La troisième question, je vais citer par ceci, mais c'est-à-dire quels sont les critères à prendre compte pour sélectionner et former le personnel des jardins zoologiques quant à ça. Je ne sais pas si l'invité, toujours je suis avec l'invité parce qu'il est du domaine là. Moi, je m'attends beaucoup à l'invité parce que ce que l'invité a fait, ça m'a besoin beaucoup. Je ne sais pas quels sont les critères pour qu'on puisse avoir beaucoup de ces gens-là. Pas que l'invité sait, parce que l'invité peut nous quitter ici, la mort peut arriver, mais nous ne souhaitons pas qu'il puisse mourir d'abord maintenant. Il faut qu'on puisse former. Je ne sais pas
Merci.
Parce que moi aussi, je sais pas si l'invité, quels sont les critères que vous pouvez nous donner pour que je puisse devenir également comme vous. C'est ça un peu quelques préoccupations que j'avais,
Merci beaucoup, M. Thomas. Excellente journée à Kisangani. Docteur, je vais revenir à vous, qu'on termine avec les auditeurs. Il y a un deuxième. Le deuxième auditeur, il intervient depuis la ville de Mbandaka. Il s'appelle Platini. Monsieur Platini, bonjour.
Tati, bonjour. Je salue l'invité.
On vous donne la parole.
Voilà. Merci beaucoup, Tati. C'est Platini Mbombo depuis Mbandaka. Merci. J'ai bien suivi l'invité avec beaucoup d'attention. Mais moi, avant que je puisse aller directement à mes PD, petite question, je voudrais. Enfin, j'ai un témoignage. J'étais un jour à Bassankoussou, le territoire de Bassankoussou. Quelque part là, il y a un jardin zoologique, là où il y a beaucoup d'animaux, les singes, les tigres, etc.
Comment s'appelle ce jardin, s'il vous plaît, cher Platini?
Oui, je ne suis pas du domaine, mais je parle seulement parce qu'il y a il y a un, ça on dit garde parc, il y a un petit parc là, il y a beaucoup d'animaux à l'intérieur. J'oublie même les noms à côté de Gumbalo. Je suis en passage, mais il y a un singe, il y a un singe qui nous a vraiment à, pas attrapé mais frappé. Vous voyez? Alors, monsieur Tati, je vous dis que on était vraiment en insécurité. Il y a l'animal qui a quitté les forêts
pour s'attaquer à vous.
C'était là-bas et venu auprès de nous. Ça, c'était vraiment un peu compliqué. Alors, moi, j'ai tout suivi les vidéos, comme il a dit, la sécurité des personnes avec les visiteurs, la sécurité des animaux eux-mêmes. Alors moi, je voudrais revenir au niveau de l'invité parce que c'est lui qui connaît, il est spécialiste en la matière. Au Congo, là, au Congo, nous avons combien de jardins zoologiques? Et maintenant, quand est-ce qu'on parle d'un jardin zoologique? Parce que moi, je, comme chez nous, à l'Équateur, nous avons un jardin botanique qui se trouve dans la ville de Mbandaka. Maintenant, quand oui, et Yala, voilà. Jardin botanique de Yala, voilà.
Je sais, aussi, Platini, je sais que... Oui, Monsieur Platini, à Yala également, il y a une partie zoologique, hein, je ne sais pas s'il continue à fonctionner, mais il y avait aussi un quartier zoologique au sein de Yala.
Ça existe, à Mbandaka, demain je serai là-bas, ça existe. Il y a aussi un crocodile qui est là, qui a déjà fait plus de 100 ans, et aujourd'hui il vit, il est là. Et quelque part aussi, il y a une partie zoologique qui s'est abandonnée, abandonnée parce que notre gouvernement congolais, c'est qu'il y a des espèces, parce que le gouvernement pour le congolais, appuie beaucoup plus là où il y a la gâteau, là où il y a la politique. Mais ce qui, c'est ce qui est ensemble avec les populations, ce qui est naturel, notre gouvernement est toujours incapable de faire ça. Alors, c'est que moi je connais. Et aussi au niveau du parc de Salonga. Là, ça se trouve dans la province de la Tchopa, dans le territoire de Mokoto. Là-bas, il y a aussi un parc, un grand parc qu'on appelle le parc Salonga. Là, il y a des éléphants, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Et aussi des gardes-parcs. Mais ça se fait comment, monsieur Tati? Si vous arrivez sur le terrain, il y a le garde-parc, ce qu'on appelle le gens de ICCN, Institut Congolais de Conservation. Ce sont ces gens-là qui ont censé, voilà, les cougars. Ce sont ces gens-là qui ont censé à bien garder les animaux au niveau du parc. Mais comment ça se passe? Si on dit ici c'est l'interdiction, il n'y a pas personne pour entrer ici, mais ces gens-là eux-mêmes ont commencé maintenant à attraper le singe, attraper les animaux dans les forêts, et ces animaux, quand ils trouvent qu'ils sont en sécurité, les animaux sortent maintenant, quittent les forêts, sortent maintenant au niveau du public, commencent maintenant à chercher à taper les gens. Ça aussi, ça c'est un témoignage que moi-même je vis sur mes yeux comme ça, au niveau des territoires de mon coteau. Alors moi je voudrais pas être trop kilométrique, je voudrais quand même vérifier et demander à l'invité, s'il peut nous donner. Ici au Congo, nous avons combien de parcs zoologiques? Et ces parcs zoologiques-là, quand est-ce qu'on détecte un parc zoologique? Parce que chez nous, en Mbandaka, comme vous le savez très bien, nous avons un parc, mais c'est abandonné, délaissé par le gouvernement congolais. Ça ne fonctionne même pas. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais ça existe. Hein? Alors, nous avons combien? Maintenant, le nombre d'espèces des animaux-là, au niveau des parcs zoologiques, c'est quoi? On fait toujours allusion des lions, et les léopards, etc., tout ça. Et les éléphants, les singes, parce qu'il y a aussi des serpents qui se trouvent au niveau des parcs zoologiques. Quelles sont les espèces, les animaux qu'on peut trouver dans le milieu des parcs zoologiques? Et aussi, quelles sont les conditions? Donc, les critères, quoi, sur le plan sécuritaire des personnes visitées. Le plan sécuritaire à nous, les visiteurs, et aussi le plan sécuritaire des animaux qui se trouvent au niveau des forêts. Et aussi, je voudrais revenir à quoi l'inviter pour chiquer. Il y a aussi des animaux qu'on vit ensemble avec la population. Je peux vous dire, les chiens, les chats, les cochons, etc. Tout ça, qu'on vit, voilà, qu'on vit ensemble avec eux. Est-ce que, parce que l'invité lui a dit qu'il était interdit de donner à manger aux animaux, et aussi, c'est aussi interdit des animaux de revenir
auprès de la population. Vous mélangez. Il y a des animaux de compagnie, c'est ça, quand on l'appelle animaux de compagnie, c'est un animal qui vit avec l'homme, et l'homme est obligé de les prendre en charge à 100%. C'est pour cela, pour te protéger, si tu as un chien, tu dois le faire vacciner, il doit être en bonne santé.
Et cet animal, il est dressé.
Pour ne pas te contaminer. Mais quand on parle des animaux sauvages, ça veut dire que ça, ce sont des animaux, soit qui vivent dans leur milieu naturel, soit on les déplace de leur milieu naturel pour les mettre en captivité, et là, on parle des jardins zoologiques. Ouais.
Merci beaucoup. Bon, pour terminer, quels sont les critères pour l'amélioration de ces parcs zoologiques à travers la République démocratique du Congo? Et quel mécanisme vous, en tant qu'expert, que vous faites sur le terrain à Kinshasa, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du gouvernement,
je suis de Lubumbashi,
il est médecin vétérinaire, il enseigne également
à l'université de Lubumbashi.
Voilà, il n'est pas député.
Vous êtes rare au Congo.
Je suis chef de
vous êtes rare au Congo. Vous êtes rare au Congo. Vous êtes rare au Congo parce que je peux vous dire, les médecins vétérinaires au Congo, vous pouvez être au moins 5 ou 4.
Oh non. Moi-même, je suis chef de travaux. Chaque année, il y a l'université de Lubumbashi, l'université de Kinshasa, l'université de Butembo, l'université de.
Même à Kisangani aussi.
L'université de Goma, l'université de.
Voilà.
Il y a beaucoup des universités qui ont des
facultés. Merci pour
l'invitation. Écoute, je suis un enseignant à l'université de Bandaka. Quand m'écrit, je viendrai dispenser les cours. Je suis spécialiste en chirurgie vétérinaire, anesthésiologie. Ça veut dire que c'est, pour moi, ça ne dérange pas. On est là pour la formation de la jeunesse.
Merci beaucoup, Platini. Excellente journée au niveau de la ville de Mandaka. On retourne ici à Kinshasa, où on va donner la parole cette fois-ci, docteur, à Gaston. Gaston, bonjour. Monsieur Gaston.
Bonjour, Tati.
Nous vous écoutons.
Oui, je suis là.
Allez-y.
Vous m'écoutez, j'espère.
5 sur 5.
Vous m'écoutez très bien.
D'accord. Je ne sais pas pourquoi on fait tomber les éloges sur notre invité. Je vais tout à l'heure d'abord l'écouter par rapport à la thématique. Ouais. Mais moi, je voulais d'abord vous poser une petite question.
Oui, monsieur.
Quand est-ce parce que je pense que tout animal étant créé par Dieu,
Monsieur Gaston, s'il vous plaît, il y a altération de communication. Vous avez activé le haut-parleur de votre téléphone?
Non, je ne sais pas si vous m'écoutez.
Oui, là, ça va.
Oui, si vous avez mis les casques, enlevé les casques, voilà. Parlez normalement.
Non, je n'ai même pas tout ce que vous faites à l'idée là.
Ça serait nettement amélioré. C'est que vous étiez à côté
de la radio. Mais j'ai un retour là,
Vous êtes à côté de la radio, alors éloignez-vous de la radio, éloignez-vous du transistor qui est à vos côtés là. Voilà, on vous écoute, monsieur Gaston, allez-y. Malheureusement, la liaison. Monsieur Gaston, activez le micro afin que l'on puisse s'écouter, s'il vous plaît. Là, il est loin.
Allô?
Oui, on vous reçoit, allez-y.
Voilà. Donc, quand est-ce que l'homme a pris l'initiative d'élever un animal? Moi, je pense que tout animal est au départ sauvage, étant créé par l'homme. Mais aujourd'hui, il y a des animaux domestiques qui sont faits à l'idée qui sont responsables, qui sont de compagnie de l'homme. Et l'homme est responsable sur tous les plans, entretien, nourriture de ces animaux-là. Mais il faut aussi constater qu'il y a des animaux de compagnie domestiques qui sont en réalité les responsables. Donc, ils sont reconnus comme animal d'air, mais sur les plans pris en charge, c'est des bruits, hein. Vous les verrez dans toutes les poubelles du quartier, vous les verrez dans les maisons des voisins, pour faire manger, et les propriétaires ne programment même pas quelque chose en termes de production pour
ces animaux. Mmh.
Voilà. Dans le cas des fesses, vous les verrez, des fois morts de chats, des fois de zoos. Bon. On ne sait pas qu'est-ce qui est animal sauvage qui est domestique. Mais il est aussi vrai que l'animal en soi a besoin de l'affection, si je peux bien dire, hein, que ce soit animal domestique et surtout ceux qui sont élevés par les hommes, entre autres, ceux qui sont qualifiés de sauvages, mais qui sont gardés dans des parcs, entre autres, les lions que vous faites allusion là, ils doivent être affectionnés par l'homme, les hommes qui les entourent, surtout bien les encadrer, les nourrir comme il faut. Bon, les cas contraires, si on ne les voit tous là, mieux vaut les laisser errer dans la nature. Mais dans la plupart des parcs, il est là, il est conseil du travail dans les parcs, ce sont des animaux prisonniers, hein, si je peux les qualifier ainsi. Même Dieu n'est pas content de la manière dont on traite les animaux dans ce pays. Le mieux serait même de les laisser
à l'état naturel, dans la forêt.
Peut-être,
ils vont se débrouiller.
Dieu pourvoira à leurs besoins.
Si je peux.
Si
je peux. Vous...
L'homme d'abord qui travaille là-bas n'arrive pas à nourrir sa maison. Les paix d'aliments qui sont destinés, peut-être par les hommes de bonne volonté, partis à niveau-là, sont détournés pour aller nourrir leur maison. Bon, attendons-nous à réparer une hein, chose. Bon, je veux un peu avoir une idée sur les conditions pour payer un parc. Parce que d'après ce que l'invité a dit, c'est une propriété, c'est une entreprise d'une personne, je ne sais pas si c'est une entreprise d'une personne dans le cas d'espèce. Un parc d'élever les animaux pour quel objectif? Moi, je pense que l'objectif d'élever les animaux dans les parcs, c'est pas seulement pour les besoins touristiques. Il y a aussi les besoins de protection des espèces, écosystèmes, mais surtout aussi les touristiques, comme fait allusion.
Oui. L'invité a déjà révélé tout quand ça. Est-ce que vous avez quelques questions particulières à poser à l'invité? Nous allons évoluer dans le débat parce qu'il y a d'autres auditeurs qui attendent, Maître Gaston.
Bon, pourquoi l'apparition des lions a attendu l'apparition de Joseph Kabila? Parce qu'il y a des... On pense que c'est lui, hein? Le Katangé qui est venu de forêt, qui est dangereux. Je ne sais pas, est-ce que ça peut avoir
ça n'a rien à voir avec la politique ou les discours de l'ex-président Joseph Kabila. Ce sont des lions qui se sont évadés malheureusement au même moment
où lui s'est retrouvé,
parler.
La zone occupée.
Ça dit que c'est un danger d'abord ces animaux-là qui soient en liberté. Et personne ne peut accepter exposer la population. C'est un accident qui est arrivé malheureusement qu'on doit chercher à éviter dans l'avenir. Mais je ne pense pas qu'il y a
une corrélation,
avec la politique.
Non, pas du tout.
Les Catagniers font ça. Non, c'est pas ça.
Merci beaucoup, cher Gaston. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous avez pris la parole. Cette fois-ci, on part à Bandounouville où on va donner la parole au docteur à Monsieur Paty. Paty, bonjour.
Bonjour, cher Tati. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Hein.
On vous donne la parole, Tati.
Ces jours, nous constatons des animaux féroces. Hein. Chez moi, ici à Kouilou, précisément à Idiofa, on avait abattu un léopard.
Ah, j'ai vu les images.
Et là, à Katanga, on a appris ce sont
les léopards.
Les deux lions qui s'étaient évadés, on ne sait pas moi. Ils étaient à la quête de quoi?
Oui.
Vous dites que ce n'est pas une coïncidence avec Kabila, mais je me souviens quand Nang avait lancé son parti, six alliances de fleuves comme ça, les fleuves s'étaient fâchés. Les fleuves, on avait vu comment il avait débordé. Bon, je ne sais pas si tout cela, c'est un langage, on ne sait pas comprendre.
Non, je voulais d'abord.
Les questions que je vais poser à.
Allez-y.
Oui. À notre invité sont celles-ci.
Monsieur Paty,
l'invité voulait me dire quelque chose.
Oui, je voulais vous dire, il faudra comprendre aujourd'hui si on a des animaux sauvages qui se déplacent pour se retrouver dans des villes. Il y a un problème. Il y a d'abord la pression démographique. L'homme est entré, les villes s'agrandissent. Oui. Il y a l'exploitation du bois, il y a les champs, il y a l'exploitation... des minerais dans des parcs, ça dit que l'homme est tenté de détruire l'habitat des animaux, et ces animaux-là n'ont plus la place pour rester en brousse, ils commencent à se retrouver à côté des hommes, et ce qui fait un danger et pour les animaux et pour l'homme.
Il y a également la dimension migration saisonnière des animaux. En saison sèche, par exemple, ils peuvent quitter un point A pour aller
s'abriter de l'autre côté. Aujourd'hui, si vous regardez, par exemple, la ville de Bandundu, vous regardez la ville de Lubumbashi, vous regardez la ville de Kinshasa, il y a une pression démographique. Et à part ça, tout le monde veut faire les chats, on doit faire les charbons, on coupe les bois, on cultive, il y a des exploitations minières qui entrent dans des parcs, et tout ça, ça perturbe l'habitat des animaux, et c'est pour cela que vous avez tué un léopard.
Ok, cher invité.
Oui, je vous écoute, monsieur.
Quel conseil donnerez-vous, comme il y a déjà...
il y a altération des réseaux avec la ville.
Cette densité, il y a une démographie qui a... Bon, les gens viennent, ils envahissent les villes. Par rapport à ces zones-là, des jardins botaniques, est-ce qu'il y a encore moyen de les éloigner de là où les villes se trouvent? Ou il faut faire à Kinshasa là,
ouais, il faut,
y a des sites où il y a des, faut, des animaux là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour là, de là où? Est-ce qu'on alimente bien du côté alimentation les repas pour ces bêtes là? Qui leur donne à manger? S'ils sont affamés, ils ne peuvent pas aussi se fâcher. Parce que nous voyons les gens qui hébergent des fois les chiens. Vous trouvez, lui-même pour trouver à manger ici, c'est tout un problème. Hein? Il part s'octroyer un gros chien. Il ne sait pas les nourrir. Les chiens commencent à divaguer par-ci au marché. Ouais. Les chiens vous mordent. Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Merci
quand vous n'avez pas quelque chose à nourrir, à ces bêtes-là, n'y a-t-il pas moyen à céder à quelqu'un qui a la possibilité?
Non, mieux vaut ne pas élever les chiens, mieux vaut ne pas avoir un animal de compagnie si vous n'avez pas assez de ressources. Merci beaucoup, monsieur Paty. Hein. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Lubumbashi que vous intervenez. Docteur, commençons par Thomas. Thomas de Kisangani,
ouais,
qui a voulu savoir quelles sont les normes de base, ouais, à respecter dans un jardin zoologique et, okay, à quoi sert un jardin zoologique.
Oui, le norme de base, c'est d'abord ici, j'ai trouvé que les auditeurs, presque la majorité des auditeurs, sont tentés de faire la confusion entre un parc,
une aire protégée et un jardin zoologique.
Je vous dis que quand on parle de jardin zoologique, ça veut dire que c'est un endroit qu'on aménage. Ça peut être en plein centre-ville. Mmh. On est érige des cages et là, on va aller prendre des animaux et les mettre et qui vont vivre dans la captivité.
Mmh. En semi-liberté ou dans,
ouais,
des cages?
Dans des cages. Mmh. Et les normes, c'est comme je vous avais dit, normalement, il faut d'abord que... Parce que c'est l'ICSN, l'Institut congolais de la conservation, qui a l'expertise et qui a tous les experts et qui vont vous faire un contrat. Pour vous dire que quand vous voulez faire un zoo ou un jardin zoologique dans la ville, voici ce qu'il faut respecter. Mmh. Et vos cages, là, doivent être contrôlées par des experts chaque année pour, mmh, voir que si les cages sont solides. Mmh. Vous comprenez?
Oui.
Et ça, c'est là où on s'est dit, si, parce qu'ils ont posé comment informer les publics quand ils entrent dans des zoos pour la sécurité. Mmh. Vous allez voir, si vous entrez dans un jardin zoologique, vous allez trouver qu'il y a toujours des pancartes. Aussi, on met même dans plusieurs langues.
Oui.
Chez Toupé, Tchakula, ne donne pas à manger, qu'on peut s'amuser à couler à thé, pour que quand un visiteur lit,
il dit... Et on dessine parfois les animaux, ouais, un gorille par exemple, vous savez que dans cette zone, il y a des gorilles en semi-liberté par exemple.
Vous comprenez? Ça dit, vous devez avoir des panneaux d'information qui devaient guider, même qui donnent même des renseignements
des
sur zones, l'animal.
Des zones d'interdit, d'interdiction
d'accès. On dit qu'ici c'est interdit et tout.
Oui. Et concernant l'alimentation des bêtes féroces, telles que des lions, est-ce qu'il y a un certain mécanisme pour éviter à ceux qui puissent manifester la méchanceté, la colère.
Ce qui est vrai, c'est quoi? Un animal sauvage reste un animal sauvage. S'il se retrouve devant un homme, l'homme est un danger potentiel pour lui. Il peut tuer juste pour se défendre, pas pour te manger. Vous comprenez?
Oui.
Ça veut dire que quand vous avez un animal, d'abord je vais expliquer ici, parce qu'on dit les lions, là, on peut les lâcher. Tu vois? Un animal qui est né en captivité, pour les remettre dans
à l'état
naturel, 70-80%
ça échoue.
Mm. Pourquoi? Parce que cet animal-là n'a pas
les réflexes de défense.
Tout à fait, n'a pas eu l'instinct de chasser, de quoi. C'est-à-dire, si vous le mettez en captivité, je peux vous donner par exemple l'exemple du zoo de Lubumbashi. Les lions, ils mangent 8 kilos de viande par jour pendant 5 jours sur 7. C'est-à-dire, ils mangent...
À l'intervalle de 5 jours.
Ouais, ils mangent 5 jours et 2 jours de jeûne.
Ah,
ils mangent lundi, mardi, mercredi, jeûne. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ils ne mangent pas. Pourquoi? Parce que selon leur système digestif, ils ne mangent pas chaque jour. Quand ils sont en milieu naturel, ils chassent. Quand ils trouvent à manger, ils vont manger jusqu'au moment où ils vont terminer. Ils vont encore marcher. plusieurs jours
pour se dépenser, ouais, chasser. Et
puis... Pour éviter l'obésité, ça dit que c'est comme ça. Et un animal mange. Maintenant, il faudra faire les calculs. Si tu veux aussi faire...
Donc, par semaine, il faut disponibiliser 40 kilos de viande par bête.
Par bête.
OK. Ouais. Et concernant... mais, comme ils sont en semi-liberté, il y a un certain dressage pour éviter des cas d'attaque, par exemple, des visiteurs et des véhicules adaptés pour les visites.
Ouais, non, dans des zoos, ils sont dans des enclos fermés. Mm. Vous comprenez? Mm. Mais si on est dans des parcs, là, vous pouvez avoir des véhicules sécurisés, fermés. Mm. Vous pouvez aller les visiter, mais en cas d'attaque, vous êtes protégé.
Ouais. Et l'auditeur de Mandaka, il a dit est-ce qu'on peut combiner jardin botanique et zoologique dans un espace, dans le même espace?
Oui, oui, parce que quand on parle des jardins botaniques, on voit tout ce qui est comme plantation, arbres, quoi. Mm. Et quand on parle des jardins zoologiques, on voit tout ce qui a trait aux animaux. Mm. Ça dit que même au zoo de Lubumbashi, on a déjà combiné ça. Mm. Ça dit vous avez des cages là où il y a des animaux, mais vous avez aussi l'identification
des plantes, des fleurs,
des arbres. On a déjà nommé les noms scientifiques, leurs caractéristiques et tout. On peut combiner ça sans problème.
Ok. Mais il a dit, comme vous avez évoqué la dimension étalement des villes, des grandes villes, Lubumbashi, Kinshasa, Mbandaka. Ouais. Ouais. L'auditeur l'a dit à Monkoto, là-bas où il y a des animaux qui quittent leur espace pour venir s'attaquer, par exemple, aux champs, consommer, par exemple, les produits des champs. Est-ce qu'il y a possibilité de délocaliser certains sites, certains jardins si
Les jardins, ça n'a pas trop de problèmes parce que les jardins sont fermés. Par contre, ce sont des parcs. Mmh. Aujourd'hui, c'est comme je peux vous dire, est-ce qu'il y a moyen de localiser une inondation?
Non.
Comprenez? C'est-à-dire, ces animaux-là, ils sont dans leur milieu naturel. Mmh. Et l'homme est en train d'abîmer leur habitat et quoi? Parce que tu as dans un parc naturel, tu as plein d'animaux. Si tu veux les délocaliser, tu vas les délocaliser comment et ça sera
aller où? Ouais. Parce qu'ils sont dans leur environnement.
Ça dit que c'est ça les problèmes avec la méchanceté de l'homme. Mm. L'homme étant égoïste, c'est pour cela aujourd'hui on parle d'échauffement climatique, on parle des inondations, on parle des catastrophes naturelles. C'est dit à une mal gestion de l'homme sur l'environnement.
Et certaines espèces animales sont très intelligentes, telles que les éléphants. Ils ont des couloirs écologiques où leurs aïeux sont passés et aussi finissent par passer des années après ou à chaque saison. Ouais. Et donc, si l'homme va habiter ou faire des activités dans les rayons, naturellement,
il sera toujours obligé de... C'est un problème que normalement, c'est pas qu'au Congo. Il faut pas quand même aussi dire qu'il n'y a qu'au Congo. Non, c'est pas un problème de la RDC, c'est un problème mondial. C'est partout, Amazon, vous voyez même qu'on est en train de faire même des fonds pour protéger la forêt équatoriale, parce que c'est parmi des réserves d'oxygène. Ça veut dire que aujourd'hui, vous devez comprendre bien que il y a une forte explosion de la population. Maintenant, il faudra bien gérer ça parce que nous avons aussi la nature qui vit à côté de nous. L'homme, pour être en paix, il doit vivre avec la nature en paix. Enfin, c'est pour cela parce que si la nature n'est pas en paix avec l'homme, la nature va se chasser, va s'en charger aussi.
Ou se rébeller.
C'est le cas des inondations, c'est le cas de l'échauffement climatique.
Et les conflits homme-animal, on le documente au Congo central, dans les Katanga, en province orientale, dans
les autres provinces. Vous faites vos cultures de maïs, après les singes viennent ravager. Pourquoi? Parce que vous aussi, vous avez coupé les arbres qui se nourrissaient comme, utilisaient comme l'air, disons, là où ils trouvaient à manger, et maintenant vous avez coupé, vous avez fait chez nous en Swahili, on appelle ça makala, les braises, et ils se retrouvent sa nourriture, ils vont chercher maintenant, ils vont pas savoir que ça, c'est les maïs des tels ou c'est les bananes ou les quoi d'une personne.
Et la gestion d'un zoo nécessite beaucoup de moyens, vous avez parlé des 40 kilos par semaine par bête, pour le cas par exemple des lions qui s'étaient évadés à la ferme à Lubumbashi, donc il faut au moins disponibiliser 200 kilos de viande par semaine. Pour ces bêtes-là.
Vous comprenez, ça dit quoi? C'est avant de se lancer, si vous avez une ambition. solution pour faire un mini parc d'attractions, il faudra toujours étudier la faisabilité et pour savoir l'investissement, parce que même au zoo de Lubumbashi, les entrées ne sont pas à mesure.
À la hauteur de satisfaire les demandes, ouais, les besoins.
On est toujours derrière les sponsors pour demander les sponsors, les bienfaiteurs pour nous aider à bien entretenir et à bien nourrir ces animaux. D'autant plus que les jardins aujourd'hui de Lubumbashi appartiennent à l'État.
À l'État, oui.
C'est nous, il y a juste un contrat État privé pour la gestion de ça. Maintenant, si toi tu t'es dit que non, moi je vais faire un parc, que je vais amener tel animal, il faut savoir bien planifier, chercher les experts qui doivent bien vous conseiller. Par contre, ça sera une perte. Tu devras investir, tu ne récupéreras jamais. Et par contre, ça risque de t'amener des problèmes si ton animal s'évade et tu
une personne.
Ouais, ça devient encore un problème.
Un problème, oui. Et l'auditeur de Mandaka a fait un plaidoyer pour qu'on puisse également penser à réhabiliter, à restaurer ces jardins zoologiques publics, surtout qui sont dans les grandes villes ici à Kinshasa, à Mandaka, à Lubumbashi, à Kisangani également.
Oui. Là, je pense que c'est un programme du gouvernement parce qu'il y a l'Institut national de la conservation qui s'occupe de la gestion et des parcs et des jardins zoologiques. Et c'est au niveau du gouvernement congolais qui devait normalement mettre les moyens pour essayer de réhabiliter. Parce que si vous venez par exemple au zoo de Lubumbashi, nous recevons beaucoup d'élèves. Il y a même des élèves qui quittent l'Ikassi à 120 km pour venir, parce que quand ils étudient un lion à l'école, ils peuvent venir voir les lions. Vous comprenez? Et quand ils viennent là, nous avons aussi des salles de projection, là où on commence à expliquer déjà les enfants dès les bas âges comment respecter la nature, comment respecter l'environnement, et tout en espérant que quand ils vont grandir, ils auront une éducation qui sera quand même en mesure de les permettre aussi de respecter la nature.
Oui, mais pour le cas de ces fauves-là, s'ils mangent bien, ils vont pas s'attaquer aux gens.
Non, les lions, il est différent des léopards. Il y a des félins qui tuent pour le plaisir, mais les lions tuent pour manger. Ça veut dire qu'un lion rassasié n'est pas
offensif,
du tout dangereux.
Il s'attaque,
Ça veut dire que c'est si ils mangent bien, c'est pour cela, pour preuve, malgré qu'ils étaient dehors, ils n'ont pas si attaqué les gens. Vous comprenez? Ça veut dire que s'ils sont bien nourris, si les cages sont très bien protégés et très bien entretenus, et je pense qu'il n'y aura pas de problème. Pour preuve, ces lions ne sont pas venus au Congo aujourd'hui. Ils ont plus de 5 ans, 6 ans qu'ils sont déjà à Lubumbashi. Ils n'ont jamais eu des problèmes. C'est juste là qu'il y a eu des problèmes. Pour dire quand la gestion elle est bonne et la sécurité est respectée, je pense que tout le monde est calme.
Et également avoir un personnel bien formé. Hein.
Oui, ça c'est ce qu'il a dit, c'est vrai. Ça dit que moi-même qui vous parle, je suis chef des travaux à l'université de Lubumbashi. Je suis spécialiste en chirurgie vétérinaire et anesthésiologie. Ça dit que j'ai été formé en Afrique du Sud comme étant ranger pour capturer des animaux et faire les et tout. Pourquoi? Parce que la formation
les dressages aussi.
Ouais, la formation elle est très utile. Par exemple, dans le cas des lions là, parce que si vous avez ces lions, tu les regardes comme ça, tu dois savoir les poids. L'anesthésie se donne en fonction des poids.
Oui.
Il faut savoir estimer. Parce que si tu donnes beaucoup, tu tues l'animal. Si tu donnes peu, l'animal
ne dort presque pas.
Il
risque de s'attaquer.
Ouais. Ça dit que même l'équipe que vous devez avoir travaillé avec, quand tu es chef d'équipe comme moi, j'ai fait toujours des formations. On fait même des stimulations. Il y a un animal qui s'évade. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Et tu vois comment est-ce que ton personnel se comporte. Et là, tu corriges. Pour se dire qu'à la longue, il faudra bien respecter ça.
Docteur Jean-Claude Binemo, nous rappelons que vous êtes médecin vétérinaire et chef de travaux à la faculté de médecine vétérinaire de l'UNILU. Merci d'avoir été avec nous dans ces rendez-vous d'Okapi Service. À la prochaine occasion. Au revoir.
Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Au revoir.
C'est par ici que nous clôturons le magazine Okapi Service, que j'ai eu l'immense plaisir de vous le présenter et coordonner sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Gloria Lutula a réalisé ces rendez-vous et Pierre Diassinois était à la prise des sons. Les rendez-vous est pris pour demain pour un nouveau rendez-vous du magazine Okapi Service. Au revoir.